Bonsoir à tous et bienvenue à chacun de vous au Collège supérieur pour la deuxième soirée Vie Pro de la saison 2013-2014 autour du thème « Quel droit à l'erreur au travail ?» Alors nous allons aborder ce sujet à trois voix avec à ma gauche le docteur Jean-Paul Varichon. Jean-Paul Varichon, vous êtes médecin de formation, vous êtes directeur de la clinique du Val d'Ouest, dont l'activité représente 25 000 patients par an, dont 3 100 accouchements, et beaucoup de chirurgie infantile. Vous êtes également président de Soins et Santé, l'hospitalisation à domicile. Bonsoir à vous et merci d'être là. À ma droite, Patrick Vincent, vous êtes commandant de bord instructeur à Air France, et vous avez été l'un des acteurs du projet de refonte de la sécurité après l'accident du vol Rio-Paris de 2009. Bonsoir et merci d'être là. Je suis donc pour ma part Mathilde Neigelaine. J'ai une double formation en philosophie et en ressources humaines. Et c'est en découvrant l'entreprise que je suis revenue à la philosophie pour tenter de répondre aux questions que l'entreprise pose. Et donc aujourd'hui, je suis consultante en ressources humaines et j'anime avec Bruno Roche le département entreprise du Collège supérieur. Donc on anime une conférence chacun pendant toute l'année. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, je vous propose de la prendre un petit moment pour poser les termes du sujet et essayer de définir les enjeux d'un point de vue philosophique, puisque c'est la particularité des soirées du Collège supérieur. Donc quand on parle d'erreur, le premier proverbe philosophique qui vous vient à l'esprit, c'est... Voilà, en latin. Voilà. Bon, il y a une suite. Voilà, il y a une suite, mais on va la garder en réserve pour la suite de la conférence. Donc, l'erreur est humaine, mais a-t-elle sa place lorsque l'on travaille dans un environnement qui tend... au zéro défaut, on est d'accord que l'erreur fait tâche. Alors que doit-on en faire? Est-ce qu'on doit tenter de la supprimer complètement? Ou au contraire, doit-on tenter de l'encadrer pour la canaliser d'une certaine façon et la limiter? Dans l'histoire de la philosophie, l'erreur est ce qui provient du jugement intellectuel que l'on fait sur les choses. Donc quand je parle de jugement dans le cadre de l'erreur, ce n'est pas un jugement moral, mais c'est bien un jugement intellectuel, c'est-à-dire qu'on pèse deux objets dans notre esprit et qu'on prend une décision au sujet de ces objets. Donc par exemple, je vois un homme au loin qui me semble être Paul. Il a les mêmes cheveux, les mêmes lunettes, la même allure. Et je me dis, tiens, ça doit être Paul. Et au moment où j'affirme en moi-même, c'est Paul, c'est là que je fais un jugement et donc que je me trompe éventuellement si ce n'est pas Paul. Donc, au lieu d'affirmer si vite, j'aurais pu me rapprocher pour essayer de mieux le voir. Et donc, quand on cherche à connaître, quand on cherche à savoir, il est possible de se tromper. Il est possible d'errer, si on reprend l'étymologie du mot erreur, errare. Et l'erreur, c'est une affirmation du coup qui est en contradiction, soit avec les règles de la logique, on peut faire des erreurs de logique, ça s'appelle des paralogismes, soit avec les données de l'expérience sensible. Dans ce cas-là, j'ai cru voir Paul, or c'était Pierre. L'expérience a démontré que j'avais tort. C'est donc notre faculté de juger intellectuelle qui est mise à l'épreuve par l'erreur. Or, aucun d'entre nous ne pouvant nier la réalité de l'erreur, on fait tous des erreurs, il va falloir qu'on cherche un coupable. Mais pourquoi est-ce que nous nous trompons? Pourquoi? Est-ce que nos facultés intellectuelles, donc en philosophie, les facultés intellectuelles sont appelés soit entendement, la faculté des concepts, soit raison, la faculté des idées. Est-ce que ces facultés intellectuelles sont mises en cause? Est-ce que nous sommes intellectuellement limités? Est-ce que notre raison est impuissante? Est-ce que notre entendement est impuissant? Et dans ce cas-là, les erreurs sont dues à notre imperfection naturelle. avec cette explication-là, on peut dire l'erreur est humaine comme une excuse. Je ne suis qu'un homme, donc je fais des erreurs. Alors Descartes va être bien plus exigeant avec nous. Il va considérer l'erreur non pas comme la preuve de l'imperfection de notre pensée, mais comme la preuve d'un manque, d'une privation de quelque chose à laquelle nous devons remédier. Nous pouvons et nous devons remédier. Et donc Descartes, comme nous ce soir, Descartes se demande d'où provient l'erreur. Il se demande cela dans la quatrième méditation métaphysique. Alors, il est un peu plus rigoureux que nous, puisque, avant d'en arriver à cette question, il explique qu'un Dieu existe, que ce Dieu-là nous a créés, que ce Dieu est garant de la vérité, et que ce Dieu, du coup, ne cherche pas à nous tromper. Ce n'est ni un Dieu trompeur, ni un malin génie, et qu'il est en même temps garant de la valeur de mes idées claires et distinctes. Arrivé à ce point, il se dit « Mais si Dieu a tous ses attributs, donc si Dieu est parfait, si Dieu est garant de la vérité, pourquoi a-t-il fait que je me trompe ?» La réponse de Descartes est la suivante. L'erreur ne naît pas de mes facultés, de mes propres facultés intellectuelles. Elles sont faites à l'image de Dieu, elles ont une certaine perfection. Mais elle vient d'un mauvais usage que l'on peut faire de nos facultés et plus précisément d'un mauvais usage de la volonté. La volonté, chez Descartes, c'est le pouvoir d'affirmer ou de nier quelque chose. Et donc, c'est elle qui va affirmer ou nier les idées que l'entendement va lui soumettre. Mais cette volonté est infinie. C'est par elle, d'ailleurs, que nous sommes à l'image de Dieu chez Descartes. Cette volonté est infinie et parfois elle se précipite et elle va plus vite que l'entendement est capable de lui fournir des idées et du coup elle affirme des choses qui n'ont pas été étudiées, si je puis dire, par l'entendement, qui n'ont pas été soumises à l'entendement. Donc quand la volonté va plus vite que l'entendement, c'est à ce moment-là qu'il y a un risque d'erreur. Par exemple, plus concrètement, quand vous envoyez un mail sans vérifier le destinataire et le contenu du mail, en vous précipitant, il y a un risque d'erreur. Mais Descartes nous dit, attention, ce n'est pas une fatalité. L'erreur, je ne peux pas l'éviter totalement, mais je peux du moins chercher à la limiter. Et je peux éviter souvent l'erreur si je suspends mon jugement. Quand je parle de jugement, c'est toujours jugement intellectuel. Et donc, ce que Descartes nous invite à combattre avant tout, c'est la précipitation. Il nous propose quelque chose de très simple, finalement. C'est de veiller à ne pas nous précipiter pour nous garantir contre l'erreur. Et donc, pour freiner cette volonté qui est infinie et qui court après son objet, qui est jamais rassasié, eh bien, on va tout arrêter, suspendre notre jugement intellectuel et décider de procéder avec méthode. On connaît souvent la méthode cartésienne, qui commence du coup par une suspension du jugement. Et donc, concrètement, pour Descartes, dans la connaissance du vrai, il faut procéder avec méthode. C'est une méthode en 4 points, on ne va pas la détailler ce soir. Alors, ce que je retiens de cette explication cartésienne de l'erreur, c'est, premier point, que nous pouvons nous garantir contre l'erreur, que nous pouvons la limiter par un meilleur usage de nos facultés. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons limiter nos erreurs. Deuxième point, ce que je retiens, c'est que pour limiter les erreurs, il nous recommande de ne pas nous précipiter. En fait, ça paraît très simple, c'est plein de bon sens. Or, le monde du travail aujourd'hui, on est tous d'accord, contraint à toujours plus de précipitation. Et pas seulement en entreprise, il me semble que même dans le milieu médical, les actes médicaux sont rationalisés. Et donc, si on disait à quelqu'un « mais enfin, relis Descartes et arrête de te précipiter », cette personne pourrait très bien nous répondre « oui, mais tu es bien gentil, mais quand j'ai 300 mails à envoyer en une journée, je suis obligée de me précipiter. Je suis d'une certaine façon poussée à l'erreur. » Ce qui m'amène ici à observer un premier paradoxe. premier paradoxe du monde du travail actuel, qui à la fois recherche le zéro défaut, l'absence d'erreur, et qui en même temps a de telles exigences d'efficacité, de rapidité, qu'on n'a plus le temps de juger correctement, qu'on est de fait poussé à l'erreur, me semble-t-il. Et du coup, découlant de cela, une des questions du sujet, me semble-t-il, c'est la place accordée à l'humain au travail, l'humain en tant qu'il fait des erreurs, et donc l'humain en tant qu'il a besoin de certaines conditions pour limiter ses erreurs. Voilà pour ce mot d'introduction. Je vais maintenant donner la parole à nos invités. Et d'abord à vous, Jean-Paul Varichon. En préparant cette conférence, vous m'avez parlé de différents niveaux d'erreurs et donc de différents niveaux de droit à l'erreur dans la globalité de votre fonction. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ? Je vous passe le micro.
Merci. Oui, alors dans mes fonctions, je relevais qu'il y avait trois niveaux dans lesquels l'erreur pouvait être importante et se transformer en faute. Il y a d'abord la dimension stratégique, c'est la gouvernance de l'entreprise. Il y a l'organisation de l'entreprise, rôle qui est tenu plus par un directeur. Et puis, il y a l'erreur médicale, paramédicale, qui conduit à la faute, ou sinon, on en reparlera, il y a l'aléa. D'abord, la dimension stratégique, c'est le rôle d'un président d'association ou un président d'entreprise qui est seul, entouré d'un conseil qu'il a choisi ou qu'il n'a pas choisi, qu'il doit choisir pour lui permettre d'avoir une gouvernance qui est saine. Et s'il fait des choix qui le conduisent à l'erreur, automatiquement, il aura à aller devant soit un tribunal parce qu'il fait un dépôt de bilan, un tribunal de commerce, soit dans le cadre d'association, puisque j'ai la gouvernance d'une association, il devra aller devant le tribunal de grande instance et non devant le tribunal de commerce. Et c'est quelque chose d'important dans la gestion des associations où finalement on peut avoir des conséquences pénales extrêmement lourdes. Ces fautes et ces erreurs, on est obligé de... Ça fait partie des risques aussi qu'on prend, soit, j'allais dire, en association, soit en société. C'est-à-dire qu'on est obligé de se diversifier, on est obligé de grandir, de croître, parce qu'une société ou une association, c'est jamais linéaire. Il faut, il y a de la concurrence partout, et il faut coller à ce que l'on fait et toujours développer plus. Donc, il faut être là, il faut prendre les enjeux, essayer de discerner pour prendre les meilleures directions possibles. Et souvent, on le fait seul. Et puis, souvent, on est accompagné aussi. Je parle souvent des banquiers, des conseils, par des gens qui peuvent vous pousser dans des chemins d'une croissance externe ou autre et qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous en termes de timing. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce risque et sur cette dimension stratégique dans l'entreprise qui est source d'erreurs. Donc, pour y parer, c'est important. C'est important de s'entourer d'un conseil compétent, notamment au niveau des entreprises, au niveau aussi des associations, et non pas d'avoir des gens qui sont là et qui restent jusqu'à... et qui n'ont plus cette compétence métier qu'on attend pour aider celui qui prend la décision. Le deuxième volet, c'est celui de l'organisation. Je vais plus vous parler des organisations de structures de soins. Donc, on met en place On met en place tout un tas de règles, de procédures, d'évaluations, d'actions correctives, ce qu'on appelle la roue de Deming, qui partent d'erreurs connues ou qu'on a pu et de fait qu'on a pu retracer. Et on a de ces évaluations qui aujourd'hui nous sont imposées. Et on a un recueil d'événements indésirables dans les entreprises et dans les entreprises de soins qui permet de travailler sur les erreurs et sur les multiples erreurs qui sont connues. Il faut bien faire le discernement entre effectivement l'erreur ou les erreurs qui vont conduire à la faute, puisque quand il y a une faute grave ou quand il y a un événement grave, ce n'est pas une erreur, mais c'est une multiplicité d'erreurs qui ont été commises à différents endroits. Je cite un cas. Ça s'est passé il y a à peu près 25 ans, je me souviens. C'était un praticien est venu me dire ce qui s'était passé en salle d'opération. C'était le chirurgien. Il m'a raconté, voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé. Il était sur la table. Et au moment où j'étais en train de mettre le scalpel, il y a une infirmière qui a dit « Mais cette femme est beaucoup trop jeune pour avoir une hystérectomie. » Et il a dit « Je commençais aussi à ne pas l'entendre. » Puis elle a répété cette phrase. Elle a répété cette phrase une troisième fois. Et cette femme qui était endormie, finalement, il s'est rendu compte que c'était la patiente d'après et que les patientes avaient été inversées. Pourtant, la patiente avait été endormie, ça s'est passé il y a 25 ans, avait été endormie par l'anesthésiste qui n'avait pas ouvert le dossier, donc pas validé ni l'identité ni l'âge de la patiente. Et le chirurgien n'avait pas non plus lui-même validé l'identité de la patiente. Et l'erreur, en fait, était partie parce qu'il y avait eu un inversement de chambre et de numéro de chambre. Et elle était partie du brancardier qui était allé chercher la 107 alors que c'était la 109 qui était prévue. Et donc, les deux avaient été inversés. Voilà le type d'erreur. Donc, ce n'est pas une erreur qu'aurait pu... Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu la faute parce qu'il y a une infirmière qui est intervenue et qui est intervenue à bon escient et qui a su se faire entendre, hein, ce qui n'est pas... ce qui est aussi important, mais l'erreur n'est pas, il n'y a pas eu une erreur, il y a eu une erreur administrative 107-109, il y a eu une erreur de brancardage parce qu'on n'est pas allé chercher Madame X ou Y, mais on est allé chercher le 107 et le 109. Il y a eu l'erreur d'installation au bloc, on n'a même pas validé, on a posé le dossier sur la table d'anesthésiste qui de toute façon l'a endormi, et après donc le chirurgien qui est, tout simplement a commencé son hystérectomie. Voilà, donc nous, on est responsable de cette mise en place du système qualité, qui est aujourd'hui très encadré avec la Haute Autorité de Santé, mais on doit toujours faire plus, toujours étudier ces événements indésirables, faire une cartographie des risques patients, et c'est des travaux qui sont faits quotidiennement aujourd'hui dans nos établissements. Pourtant, le risque existe. Le troisième volet, c'est la faute paramédicale ou médicale, ou l'erreur qui conduit à la faute. Tout le monde le sait. Nous, on a eu une erreur grave qui s'est produite dans notre établissement il y a 9 ans. Il y a un infirmier qui a fait 10 fois la dose de morphine en sous-cutanée. Une fois que l'injection est faite, de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est une dose qui est létale. Et ça, effectivement, c'est une erreur qui a conduit à la faute lourde. Alors, on le reverra. Il y a aussi, et on pourra en rediscuter tout à l'heure, sur la survenue de cette erreur. Ça a eu aussi d'autres conséquences, notamment sur l'étiquetage des produits, puisque ce produit est étiqueté en pourcentage. Et le lendemain, il y a un directeur de clinique qui a fait dans sa clinique, qui est une grosse clinique lyonnaise, l'étude et la validation des compétences des infirmières en leur demandant le pourcentage, ça veut dire quoi en termes de milligrammes par millilitre. Il y a eu, au niveau des infirmières, 25% de réponses justes. Il faut savoir aussi que c'était une erreur qui était connue, puisque la semaine d'après, il y a eu une autre erreur dans un hôpital lyonnais. Il y a eu aussi un autre décès dans un hôpital régional d'enfants la semaine qui a suivi cette erreur. On n'en a pas parlé tout simplement parce qu'on parle souvent des erreurs du privé, ce qui est une réalité, hein, je le dis, mais sans jugement. Et en fait, il faut savoir que cette erreur était tellement connue que le laboratoire qui faisait la morphine avait déjà anticipé et avait déjà modifié son étiquetage, c'est-à-dire que l'étiquetage avait été non plus mis en pourcentage, mais en milligrammes par millilitre et non plus en pourcentage. Or, les autorités du médicament avaient vu que cet étiquetage avait été modifié et avaient demandé au laboratoire de reprendre l'étiquetage en pourcentage. Voilà. Et l'étiquetage avait été repris en juin en pourcentage. Les autres ampoules avaient été repris par le laboratoire, qui était bien étiqueté. Et bon, et l'année suivante, on a aujourd'hui un étiquetage en milligrammes par millilitre. Autre type d'erreurs qui sont assez fréquents et qui malheureusement conduisent à des erreurs de dose, c'est quand une infirmière se trompe de seringue, elle prend pour faire de l'insuline, elle prend une seringue en millilitres au lieu d'en prendre une seringue en unité internationale. Si vous faites 8 unités, vous faites 8 unités. Si vous faites 8 millilitres, vous faites 10 fois la dose. Ça, c'est des erreurs qu'on retrouve même assez souvent et qui conduisent aussi les infirmières souvent devant le juge. Voilà pour les trois volets que je voulais développer, en disant aussi que je suis surpris de certaines disciplines et notamment je voulais parler de l'obstétrique parce qu'en obstétrique effectivement moi je me rends compte en voyant pratiquer les obstétriciens que quand tout se passe bien c'est formidable et dès que ça se passe pas bien, dès qu'il faut faire quelque chose, ils ont 2 secondes pour prendre la bonne décision. S'ils prennent pas la bonne décision, ils sont dans le chemin de l'erreur et c'est très difficile de revenir. Donc vous voyez, ça demande beaucoup de pratique, une discipline médicale, pareil pour l'urgentiste ou dans certaines autres spécialités. Mais quand je les vois travailler en obstétrique, il faut avoir des réflexes et il faut surtout pas se lancer dans la mauvaise décision qui serait une erreur et qui pourrait conduire à une faute, soit pour la mère, soit qui pourrait être fatale pour la mère ou pour l'enfant.
Merci. Je me tourne vers vous maintenant, Patrick Vincent. Quel est le droit à l'erreur dans une activité à risque comme le transport aérien ? Comment est-il pris en compte et comment a-t-il évolué dans l'histoire d'une entreprise comme Air France ?
Bonsoir à tous. Alors, je suis content de voir que la définition de l'erreur de Descartes n'est pas totalement antagoniste avec la façon dont on l'a appréhendée dans nos projets. Et il y a aussi une grande proximité entre nos deux activités. Quelque chose qui n'a pas été soulevé dans votre témoignage, mais qui pour nous a généré toute la construction des grands projets de l'aéronautique depuis l'après-guerre, c'est qu'on associe à l'erreur les conséquences de l'erreur. Dans une industrie à risque comme le transport aérien, ce qui est important, c'est la conséquence de l'erreur. Il y avait une slide que je vous avais montrée, je ne l'ai pas amenée, qui montre un immeuble avec une grand-mère qui est au bord de sa fenêtre et qui fait tomber un pot de fleurs. Il y a cette image qui est montrée avec la grand-mère au rez-de-chaussée, donc le pot de fleurs tombe, et puis la même image, sauf qu'elle est au 5e étage, et on voit quelqu'un qui va passer dessous, qui va se prendre le pot de fleurs. Donc la même erreur, en fonction de sa conséquence, prend une dimension complètement différente. Et c'est ce qui a conduit l'ensemble d'entreprises du transport aérien a évolué au cours du temps avec des cycles de solutions qui nous ont amenés jusqu'à assez récemment à aller très très loin dans la réponse, j'ai envie de dire, analytique. C'est-à-dire qu'il y avait une erreur, dans l'aérien ça peut conduire à un accident avec tout ce qu'on peut voir comme pression médiatique, etc. Et on va chercher cet accident et on remonte l'arbre des causes. Et quand on remonte un arbre des causes d'un accident aérien, c'est toujours très complexe, c'est toujours un arbre des causes complexe qui a toujours les mêmes grandes familles, la famille des failles techniques, la famille des failles organisationnelles et les failles de l'humain. Et on a toujours trouvé des réponses très pertinentes dans la dimension technique et organisationnelle. Et on a commencé par travailler sur ces réponses-là. Et ça a donné des résultats très probants. C'est-à-dire que si vous prenez le taux d'accident, donc la sécurité aérienne après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était fort. On a fait une séquence réglementation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il fallait réglementer le transport aérien pour en limiter le périmètre et donc les accidents qui étaient associés au bord de ce périmètre. On a été assez loin dans cette phase réglementaire. Les normes, vous savez, qui sont multipliées. Ensuite, il y a eu une phase, on va dire, qualité. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des indicateurs qui permettaient de détecter tous les écarts par rapport au règlement. Et quand on en trouvait un, on mettait en place une nouvelle règle. Quand il y avait un accident, on cherchait où était la faille. Et éventuellement, il y avait une réponse technique au travail des automatismes, l'amélioration des outils. Les constructeurs ont beaucoup travaillé sur les automatismes, ce qui pouvait nous prévenir de certains risques. Et à chaque fois, ça mettait en place de nouvelles procédures. Et puis, il y a la phase organisationnelle où là, tout s'est mis en place pour prendre en compte de façon transverse tous ces processus avec une détection d'écart de plus en plus fin. Et plus on est dans le fin, plus on trouvait des réponses. Et plus le système produisait des réponses qui permettaient de minimiser le risque. Et quand on regarde la courbe de l'amélioration de la sécurité des vols, c'est flagrant. On s'est énormément amélioré. Sauf qu'on n'a pas pris en compte quelque chose, c'est que dans toutes ces réponses, on ne s'occupait pas de l'humain. Puisqu'on avait des réponses techniques, analytiques, simples à mettre en œuvre, on travaillait sur ces aspects-là. Mais malheureusement, chacune des réponses sous-tendait une nouvelle procédure. Mais le contributeur de ces procédures, c'est bien l'acteur. C'est l'humain. Et à un moment donné, où l'acteur, il a tellement de procédures que ça génère plus d'erreurs. Donc il y a un système qui est un peu vicieux, hein, qui a répondu à un objectif, c'est traçable, on peut même l'indiquer, mais à un moment donné, ça produit tellement de nouveautés que l'humain doit mettre en place, que l'humain y perd son latin. Donc il y perd son bon sens. Il ne sait plus, quand il se passe quelque chose, il ouvre sa boîte à outils et il a tellement de procédures qu'il ne sait plus laquelle choisir. Alors ou ça le paralyse, ou il ne prend pas forcément la bonne, et à ce moment-là, il fait une erreur. Donc le système le pousse ou à la non-action, ou à l'erreur. Alors je pousse le trait, hein, très loin pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a été au bout de ce système qui produit de la procédure, de la norme, de la règle, sans se rendre compte qu'il passe en sur-régime, quelque part. On va pas réussir à arrêter la bête. Et l'humain va s'y perdre. Et le tsunami qui s'est passé à Air France après l'accident du Rio, ça a été celui-là. C'est-à-dire que dans notre histoire d'aviation, hein, de transporteurs aériens, on a suivi toute cette logique, on s'est énormément amélioré, et puis on a eu cet accident. Et cet accident, ça a été un électrochoc énorme au sein de l'entreprise. Personne n'a compris, alors qu'on était dans toutes les process, dans toutes les normes, on respectait toutes les réglementations, on était au top de la formation, etc. On s'est dit, mais comment ça peut se passer? Et c'est là qu'on a réalisé, en mettant tout sur la table, qu'on avait perdu de vue l'essentiel de la contribution de la gestion des aléas dans l'aérien, c'est l'humain, au travers de cette multiplication de procédures. Donc on est parti dans une logique qui repose sur trois piliers fondamentaux. C'est simplifier les procédures en leur donnant du sens et en impliquant chaque acteur. Donc les trois marchent ensemble. D'accord ? C'est en impliquant chaque acteur qu'on peut simplifier les procédures en leur donnant du sens. Alors ça paraît simple, mais quand on a un système qui a une culture qui est fondée sur le technique depuis si longtemps, ce n'est pas si facile à faire. Il faut s'appuyer sur des supports, des modèles. Et j'ai préparé trois slides qui peuvent être... Pardon, j'aurais dû vous prévenir avant. Il y a trois points clés dans la mise en œuvre de ce projet, qui est de remettre l'humain au cœur du système, en fait. Et quand on parle d'humain, on disait l'erreur est humaine. Erreur et humain, ça va bien ensemble, et c'est exactement là-dessus qu'on a fondé nos projets. On s'est rendu compte qu'en fait, la logique des projets pour améliorer la sécurité des vols était toujours dans la volonté de minimiser l'erreur. Minimiser, en trouvant à chaque fois un nouvel outil. Sauf que la multiplication des outils, comme je l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, génère plus d'erreurs. Donc le premier point clé dans notre projet, je ne sais pas si c'est très lisible, mais je vais vous l'expliquer, c'est que c'est une volonté de la direction. Ça ne peut pas être autrement qu'une volonté extrêmement forte du top management. Donc, il y a un engagement du comité exécutif dans une charte qui est dans notre manuel d'exploitation et qui concerne l'ensemble des acteurs du transport. Et vous le voyez, je l'ai fait ressortir en rouge. Hein. Dans les points clés de cette charte, il y a la reconnaissance à chacun du droit à l'erreur. D'accord ? Ça, c'est un point extrêmement important qui est associé à une non-punitivité de la reconnaissance de l'erreur. C'est qu'un acteur, un salarié d'Air France qui a commis une erreur et qui le déclare, cette erreur ne peut pas être prise en compte dans son management pour le punir. C'est totalement non punitif. Et il y a tout un canal de remontée anonyme qui permet ça, qui porte cette valeur-là. La deuxième chose, c'est que quand l'événement devient visible, c'est-à-dire qu'il y a une enquête, il y a un événement, ce qu'on appelle visible, c'est que ou bien les médias s'en emparent, ou bien il y a un accident, il y a quelque chose qui est acté. À ce moment-là, la façon de traiter l'événement est selon un process qu'on appelle juste et équitable, en anglais just and fair. D'accord ? Ça veut dire que dans ce processus de traitement de l'événement, on remet en cause l'ensemble des acteurs et on remet en cause en parallèle l'organisation. C'est-à-dire que si on se rend compte que l'acteur est victime d'une forme organisationnelle systémique, le système se remet en cause en parallèle. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour rendre l'organisation auto-apprenante. Donc voilà pour le premier support. Le point clé, c'est cet engagement fondamental qui est encadré par une logique managériale, une logique de direction hein, qui est très forte sur cet aspect-là. La slide d'après. Ouais, c'est celui-là. Alors ça, je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure parce qu'il faut vous l'expliquer, mais en deux mots, c'est le modèle TEM. TEM pour Threat and Error Management. Gestion de la menace et de l'erreur. Et ce qui est flagrant dans ce modèle qui est finalement la représentation de notre activité, c'est que l'erreur est le cœur du système. Et c'est là la véritable révolution, c'est qu'au lieu de vouloir minimiser l'erreur, on fait de l'erreur le moteur du système. Et ça c'est vraiment nouveau. Parce qu'à vouloir minimiser l'erreur, à chaque fois, on rajoutait des couches et des couches dans lesquelles l'humain se sentait perdu. Là, on remet l'humain au cœur du système. Pourquoi ? Parce que c'est l'erreur le moteur. Parce que c'est au travers des erreurs qu'on apprend. Il y a eu une utilisation de mots, docteur Varichon, que vous avez utilisé dans une logique que j'ai entendue, moi, de erreur qui donne la conséquence à une faute. Alors que nous, dans notre compréhension, la problématique, elle est à l'origine, c'est qu'il y a une confusion entre l'erreur et la faute. Et c'est très franco-français. Les anglo-saxons sont beaucoup plus dans la facilité de reconnaître l'erreur comme étant quelque chose qui est une motricité. J'ai commis une erreur, donc j'ai appris quelque chose. Alors que nous, dans notre système, je crois, très éducatif, hein, c'est sur ta dictée, tu as fait tant de fautes. Mais je n'ai pas fait exprès. C'est peut-être une erreur. Mais on a véhiculé cette espèce de flou. Alors je crois que Mathilde va aller plus en détail. Je ne vais pas le faire à sa place. Mais c'est très important de prendre conscience que dans notre culture, entre erreur et faute, il y a parfois une confusion. La problématique, c'est qu'on va masquer une faute alors qu'on est capable de reconnaître une erreur. Et ça change tout. Et nous, c'est ce qu'on porte dans ce nouveau modèle. Je vous l'expliquerai tout à l'heure plus en détail, mais c'est vraiment le principe de décrire l'activité qui est soumise à des menaces. On peut commettre des erreurs et on a des non-conformités qu'il faut savoir gérer. Et en dessous, les plaques que vous voyez, qui sont les protections finalement aux différents risques, sont autant de compétences ou de systèmes qui vont nous protéger. Voilà. Ce que je voulais vous montrer à ce stade, c'est que l'erreur est centrale. C'est le cœur du système. Donc elle produit l'apprentissage. Au lieu qu'on essaye de la minimiser, on la met en valeur. Ça, c'est très nouveau. Puis la dernière slide, qui est en fait la copie d'une affiche qui est partout à Air France. Il y en a plusieurs. Hein. Elle est partout. Donc elle est dans les ateliers de mécaniciens, elle est dans les bureaux du siège, elle est à la préparation des vols. C'est vraiment... On est passé de la philosophie du projet, qui est de véhiculer une culture de sécurité just and fair, à des pratiques qui sont décrites au travers des affiches et qui sont totalement transverses. Donc ça devient, comment dire, une nouvelle culture d'entreprise qui porte des valeurs qui sont plus liées à l'activité, mais qui sont humaines. Et ça change tout. Au sein d'une entreprise, quand vous véhiculez des valeurs humaines avec le même vocabulaire sur tous les métiers, vous créez vraiment une motricité transversale qui n'a jamais été mise en place avant. Donc voilà en quelques mots l'histoire hein, de l'erreur dans l'aérien et comment Air France on a réagi par rapport à ça pour créer un nouveau paradigme. Et tout à l'heure, on ira un peu plus loin sur ce modèle-là.
Donc, on voit bien dans vos propos respectifs que tout se joue dans la frontière, en tout cas dans les définitions entre l'erreur et la faute, qu'il convient du coup de bien distinguer. Donc la faute, qui a une connotation morale, ne concerne pas tant le jugement intellectuel que l'action. Une faute, c'est un manquement à une règle connue ou à une règle censée être connue. C'est pour ça qu'on parle de faute d'orthographe, en fait, en français, parce que c'est une faute, on n'a pas suivi les règles de grammaire ou d'orthographe. Mais effectivement, c'est un abus de langage, si ça nous empêche de reconnaître nos erreurs. Donc, par exemple, si je ne connais pas une donnée et que pour exercer mon travail, cette donnée est indispensable, je vais commettre une faute si j'agis sans la connaître. De l'erreur à la faute, il y a selon moi deux conditions nécessaires. La première, il faut qu'il y ait passage à l'acte. Effectivement, vous l'avez dit, docteur Barichon, il n'y a pas faute tant qu'il n'y a pas eu acte fautif. Et la deuxième, c'est la dimension volontaire. Alors on peut se demander, est-ce qu'il est possible de faire une erreur volontairement ? Alors quand on fait une erreur, cela ne dépend pas de nous. Donc, vouloir faire une erreur, cela signifie, cela ne dépend pas de nous, cela dépend de nous, vouloir que cela ne dépende pas de nous. Donc on voit bien que c'est contradictoire. Impossible de vouloir faire une erreur. Impossible de vouloir être trompé, on a plutôt tendance à fuir l'erreur. Mais quand j'agis dans l'ignorance, est-ce une faute ou une erreur ? Donc ce qui est difficile à évaluer, c'est la responsabilité de l'acte qui a été commis par ignorance. Cette ignorance est-elle légitime ? Dans ce cas-là, c'est une erreur, une simple erreur. Ou cette ignorance est-elle elle-même coupable ? On commet une faute. Par exemple, il y a deux façons de mal comprendre une consigne et donc de rendre un travail qui ne correspond pas à ce qui a été demandé. Première façon, on est persuadé, on est certain de ce qu'on a compris. Or, on a mal compris au départ, mais on en est certain. Et du coup, on va rendre un travail qui n'est pas celui qui était demandé. C'est une erreur. En revanche, si on a quelques doutes sur ce qui a été demandé et qu'on ne va pas chercher plus d'explications, on bascule du côté de la faute. Voilà. Alors, Aristote distingue plusieurs formes d'actes par ignorance dans l'Éthique à Nicomaque au livre 3, au début du livre 3. Et il prend l'exemple d'un ivrogne. Un ivrogne agit par ignorance, puisqu'il n'est pas dans son état normal. Mais cette ignorance, il l'a lui-même provoquée. Dans ce cas-là, Aristote qualifie ces actes, l'acte de l'ivrogne, non pas d'involontaire, mais de non-volontaire, c'est-à-dire où la volonté ne se montre pas. Et il distingue les actes de l'ivrogne d'autres actes qui peuvent être, eux, involontaires, c'est-à-dire totalement dépourvus de volonté, dépourvus de conscience. Et à mon sens, ce qu'Aristote entend par acte involontaire, sans volonté, cela reste des erreurs. Et donc, dans le passage que je vais vous lire dans quelques instants, Aristote explique précisément quel genre d'ignorance peut permettre de définir un acte comme involontaire. Et donc, il définit, selon moi, ce que c'est que l'erreur. L'erreur dans l'action. Alors, je vous lis un extrait. Et ce n'est pas non plus l'ignorance des règles générales de conduite, parce qu'on l'a vu, si on ignore les règles, c'est une faute. Puisque une ignorance de ce genre attire le blâme, écrit-il. Ce qui rend l'action involontaire, c'est l'ignorance des particularités de l'acte, c'est-à-dire de ses circonstances et de son objet, car c'est dans ces cas-là que s'exercent la pitié et l'indulgence. Parce que celui qui est dans l'ignorance de quelqu'un de ces facteurs agit involontairement. Dans ces conditions, il n'est peut-être pas sans intérêt de déterminer quelle est la nature et le nombre de ces particularités. Elles concernent soit l'agent lui-même, l'acte, la personne ou la chose objet de l'acte, quelquefois encore ce par quoi l'acte est fait, c'est-à-dire l'instrument, le résultat qu'on en attend, par exemple sauver la vie d'un homme, la façon enfin dont il est accompli, doucement par exemple, ou avec force. Ces différentes circonstances, personne à moins d'être fou ne saurait les ignorer toutes à la fois. Il est évident aussi que l'ignorance ne peut pas non plus porter sur l'agent, car comment s'ignorer soi-même ? Par contre, l'ignorance peut porter sur l'acte, comme par exemple quand on dit « cela leur a échappé en parlant » ou « ils ne savaient pas qu'il s'agissait de choses secrètes » ou « voulant seulement faire une démonstration, il a lâché le trait », comme disait l'homme au catapulte. Donc, on voit bien que dans l'action, ce qui peut être considéré comme une erreur, c'est uniquement l'acte involontaire, l'acte sans volonté qui a été commis du coup par ignorance. Et l'ignorance ne concerne pas la règle générale de conduite, mais l'ignorance concerne uniquement les circonstances, les particularités de l'acte. Alors, au travail, ce qui peut poser question, c'est donc bien l'erreur, le droit à l'erreur. Parce que concernant la faute, on ne se pose pas la question du droit à la faute. Il y a un droit de la faute, c'est le droit du travail. À chaque faute, à chaque niveau de faute, correspond une sanction. En revanche, on peut se poser la question du droit à l'erreur, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit aussi, Patrick Vincent, comme un droit, la possibilité au sein même d'une activité de travail de faire des erreurs. Voilà. Alors, je vous propose de poursuivre notre enquête sur le terrain. Jean-Paul Varichon, est-ce que les différentes juridictions, justement, puisqu'on parle de droit, auxquelles vous avez affaire en tant que directeur d'une clinique, ont une approche différente du traitement de l'erreur ? Si oui, quelles sont ces différences ?
Oui, avant de répondre, je voulais juste, vous avez dit quand le doute bascule du côté de la faute. Et quand une personne doute, je pense que, et surtout dans le domaine médical, qu'on touche aux compétences et qu'on touche aussi à la formation. Et avant de répondre, je voudrais juste vous dire une chose, je suis frappé actuellement de la formation et de l'absence parfois de notation correcte de la formation des infirmières qu'on peut avoir dans les établissements de soins. Il faut savoir que si une responsable met une note inférieure à 10, elle doit le justifier et elle doit le justifier avec un rapport qui lui prend du temps et qui est long. Et qu'il y a beaucoup de notes qui ne sont pas mises à leur juste valeur entre 0 et 9. C'est tellement plus simple de mettre un 10. Et je pense que ça, c'est aussi un point extrêmement important à soulever, parce que quand quelqu'un a été souvent mal formé, c'est des choses qu'on peut retrouver dans son dossier. Et j'ai vu une ou deux fois des professionnels paramédicaux qui effectivement ont commis des erreurs, et quand on reprenait les dossiers, il y avait déjà eu des erreurs et il y avait déjà eu des choses qui étaient perceptibles lors de la formation et lors des stages qui étaient faits. Et ça, j'avais été frappé par ça. La deuxième, pour répondre à votre question, oui, parfois, il faut savoir que quand il y a une erreur qui conduit à une faute, le patient, il peut demander un dédommagement, soit au tribunal de grande instance, en pénal ou en civil, soit maintenant à la CRCI, c'est la commission de relations avec les usagers, qui va juger effectivement d'une certaine invalidité. Et s'il a une certaine invalidité, il va y avoir un jugement qui va être fait par la CRCI et un dédommagement qui va lui être attribué. Si, dans le même temps, l'infirmière a fait une faute, que cette faute ou un autre membre de l'équipe, par exemple quelqu'un qui s'occupe de la stérilisation, qui n'a pas mis le bon filtre au bon endroit ou qui a mis, par exemple, sur une boîte des filtres à trousse, quel béaba. Et si dans le même temps, le directeur de l'établissement lui dit bah, « vous avez fait une faute grave et nous vous licencions », la personne, elle va au prud'homme. Et souvent, elle va en conciliation et on se retrouve, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver en conciliation en disant, mais monsieur, vous ne voulez pas concilier pour 500, pour 1000 euros, pour... Et finalement, on se retrouve avec une aberration, c'est-à-dire qu'il faut dédommager le patient et le salarié. Ça m'est arrivé pour une infirmière qui avait effectivement fait une erreur, mais qui ne l'avait pas dit. Chez nous, on n'a pas le droit de ne pas dire. C'était une erreur de posologie chez un enfant. Et elle l'avait fait le matin à 8 heures, elle l'a dit à la relève à 5 heures. Et là, autant il faut dire les choses, parce que effectivement, quand on dit les erreurs, on peut les corriger, et on peut les corriger très vite, mais si on ne les dit pas, ça peut aller vers une, conduire à une faute, et une faute grave. Pareil, là encore, devant le président des prud'hommes, à la conciliation, mais vous ne voulez pas donner 1000, 2000 euros. Bon, et puis finalement, on se dit pour 500 ou 1000 euros, on ne va pas aller plus loin, puisque plus loin, ça vous coûte déjà l'avocat 2000, 4000 euros, puis c'est du temps passé. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est hallucinant, c'est de savoir que le malade peut être dédommagé pour une erreur qui a conduit à une faute, avec séquelles, et que dans le même temps, au niveau du personnel, il faut souvent dédommager le personnel, peut faire valoir ses droits au niveau des prud'hommes. Et va souvent devant les prud'hommes, sauf quand la faute est vraiment... Mais c'est vraiment des dossiers qu'il faut qu'on monte dans les deux cas.
Patrick Vincent, vous avez parlé de ce que vous avez fait à la suite du Rio, de l'accident du Rio. Quels sont les enjeux de demain vis-à-vis du droit à l'erreur dans votre métier de pilote ?
Ouais.
Alors le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, il a été mis en place il y a une bonne année. Et il est particulièrement utilisé pour la formation. Docteur Varichon parlait de la formation tout à l'heure. Pour nous, c'est l'aspect essentiel de notre montée en compétences et maintien de compétences. On est très réglementé sur le sujet. Tous les ans, chaque pilote a au moins 4 séances de simulateur, 2 entraînements, 2 contrôles, un contrôle en ligne, donc sur un vol, plus une journée au sol où il y a toutes les révisions des manœuvres de secours au sol, etc., tout ce qui est extincteur, porte, voilà. Donc on est très réglementé sur le maintien de compétences et l'évaluation des compétences associées. Très, très réglementé. Et ce modèle-là... Je vais me déplacer pour vous le montrer. Il repose sur un modèle un peu ancien, mais qui a eu sa contribution. Vous voyez, les plaques qu'on peut voir là, elles symbolisent finalement la protection de l'entreprise vis-à-vis des risques. Le risque étant, le risque ou la menace, c'est la flèche qui attaque le système. D'accord ? Et le principe des plaques de Reason, pour ceux qui connaissent le modèle, c'est qu'en fait, s'il y a un trou à la première plaque et que le risque traverse, il va s'arrêter sur la deuxième plaque, qui, si elle-même a une fragilité, il y a la troisième plaque derrière. D'accord ? Donc normalement, c'est un système fail-safe, ça veut dire que la panne d'un des systèmes reste safe. Et on protège le système par le fait que derrière, on a encore de quoi se protéger du risque. À chaque fois qu'il y a un accident ou un incident, c'est à chaque fois un risque qui a traversé toutes les plaques parce que les failles de chaque plaque étaient alignées sur le même risque. D'accord ? Et ça arrive, puisque les incidents arrivent. Donc ce modèle de Reason, il a permis de modéliser un petit peu comment on pouvait définir les plaques, etc., etc. Il a eu un défaut, c'est que le réflexe systémique, quand on avait identifié le trou dans une plaque, c'est de mettre une rustine. On va boucher le trou. D'accord ? Et on imagine bien avec le système qualité à quel point on est capable de trouver les trous pour les boucher. Il y a un moment où il n'y a plus que des rustines. Donc on n'a même plus la couleur des plaques, vous voyez ce que je veux dire. Donc si chaque plaque à l'origine, c'était une procédure, par exemple, est-ce qu'elle avait un sens pour l'acteur, au bout d'un moment, le sens a totalement disparu. Parce que le système est venu suralimenter, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est un modèle qui permet de le visualiser. Je vais donner un exemple amusant, c'est qu'on a travaillé avec KLM, qui est notre partenaire officiel, et chez eux, ils ont fait un travail de simplification de leurs procédures. Ils se sont demandé s'il y avait tout ce qui était réglementaire, est-ce qu'ils ne faisaient pas plus que le réglementaire. Et ils ont appelé ça le trauma concept. Et ils ont identifié un ensemble de procédures qui avaient été mises en place au fur et à mesure parce que des incidents avaient fait naître de nouvelles procédures. Et en faisant ce travail de nettoyage, ils ont supprimé 30% de leur documentation. En une dizaine d'années, 30% de la documentation était liée à des suppléments, des rajouts, parce qu'on avait identifié qu'à tel problème, on pouvait mettre telle procédure. Et l'acteur qui invente la procédure est dans son rôle. On attend ça de lui. Il a un poste qui prévoit qu'il va gérer, sauf qu'il ne prend pas l'ensemble du collectif. Donc ce modèle-là, il avait cet inconvénient. Mais en le réintégrant dans ce nouveau modèle TEM, gestion de la menace et de l'erreur, on a simplifié les plaques, on en a beaucoup moins. On est allé chercher les plaques à l'origine, celles qui ont du sens, et on rend le système vivant. C'est-à-dire qu'au lieu de rajouter des plaques de façon un peu figée, le système est rendu vivant par le fait qu'on anticipe l'événement. Alors ce qui me conforte aussi, c'est que finalement, entre ce que disait Descartes sur le fait de la temporalité et de la méthode, on est clairement là-dedans. C'est-à-dire que nous, on a des problématiques de temps. C'est-à-dire que les événements arrivent, quand on doit faire un atterrissage, on ne va pas dire « bon, je vais m'arrêter un peu, je vais me reposer, puis je reprendrai tout à l'heure ». On est dans un timing qui nous impose des décisions. Donc ce temps-là, il faut le gérer, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une histoire de mail à envoyer. Si on ne le fait pas, on le fera éventuellement. Non, il faut poser l'avion parce qu'on a du pétrole et qu'au moment, on n'en aura plus. Donc on a cette notion du temps qui est très importante. Elle est vraie aussi dans le médical. C'est très, très stressant comme dimension. Et ça, c'est une méthode. C'est une méthode de prise de recul. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on anticipe. Avant de faire une approche, on fait un briefing. Et alors qu'avant de cette méthode-là, le briefing consistait à lister l'ensemble des actions qu'on allait faire, maintenant on parle du contexte. Donc on contextualise. Et là, j'ai entendu chez Aristote cette dimension un peu contextuelle des circonstances de l'événement. C'est exactement ça qu'on fait. C'est qu'avant de faire une approche, celui qui va conduire l'avion pour faire l'approche va faire un briefing, c'est-à-dire le contexte, les menaces que je vois sur cette approche. C'est ça, ça et ça. Avec sa vision, son expérience, etc., il va dire, moi je pense qu'il y a du vent, il y a de la pluie, je suis fatigué. Donc par rapport à ces menaces, quelle stratégie on met en place? Quelle stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à quel endroit on va renforcer la plaque? Je suis fatigué, ben, je vais utiliser des automatismes. Parce que si je suis fatigué, je serai moins bon en pilotage. Donc à chaque fois, c'est une menace, une stratégie. Et dans ce contexte, c'est envisager les menaces, mais aussi les erreurs potentielles. Quand on parle de la fatigue, on est sur une notion d'erreurs de pilotage qui peuvent être commises. Donc on prend du recul, on prend du temps, et on met en place une méthode qui consiste à dire quelles menaces on envisage, et comme on les partage avec le ou les autres copilotes, leur expérience peut enrichir l'événement. Parce que nos expériences sont plurielles, donc on a une vision de la situation qui est complètement partagée et qui permet de mettre en exergue le relief de ce qu'on va vivre et en face de ce relief, des stratégies adaptées. Donc on va vivre l'événement en ayant déjà anticipé les menaces potentielles et les erreurs qu'on pourrait commettre. Ce qui fait qu'on a déjà une stratégie qui nous permet d'être efficace en termes de méthode, même si le temps est contraint. Est-ce que vous comprenez le principe? Donc c'est l'activité soumise à des menaces, on les anticipe. On peut commettre des erreurs, on se positionne comme acteur potentiellement faillible, et à la fin, tout ce que vous pouvez voir, c'est qu'on pourrait éventuellement être dans une situation indésirable, et à ce moment-là, on a des procédures. Et l'ensemble de ces protections sont listées en bas, extrêmement simplifiées. Alors, on a une liste de compétences techniques, des compétences non techniques, mais on a aussi de la détection d'écart, deviation callout. On a aussi des systèmes avions qui vont nous aider, qui sont indépendants du pilote. Vous voyez, airmanship, c'est l'expérience, c'est le feeling, c'est l'intuition. Et certains sont un peu étonnés de voir la dernière plaque. Mais c'est la réalité. Alors, elle n'est pas de la même couleur parce qu'on n'est pas acteur de cette plaque-là. Mais le modèle est un modèle réel. Et c'est ce qui en fait la valeur. Ce n'est pas virtuel. On n'est pas en train d'élaborer une théorie. On a une représentation réelle de notre activité et du risque associé. On a remis... Alors, c'est à chaque fois qu'il y a une phase critique. Donc, c'est avant le décollage. Les briefings sont systématiques et sont modélisés par ça. C'est-à-dire qu'avant de faire mon briefing, je dis au briefing décollage, tout le monde est présent. OK, le contexte aujourd'hui. On est à New York, il y a beaucoup de trafic au sol. L'Américain, ils ont parfois un problème de météo, enfin de radio qui n'est pas facile à comprendre. Donc, on est trois à écouter. On met une stratégie en face du contexte qu'on a identifié. Dans le cockpit. Pour l'instant, ça, c'est un modèle qui est vraiment lié au pilote. Mais je pense qu'on va le déployer parce que c'est une vision de l'activité. Et c'est là que je voudrais en venir sur la question de ça veut dire quoi pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en voit les premiers fruits. Ça a totalement révolutionné ce que j'appellerais le management. En fait, la notion d'évaluation et d'instruction de formation. Pourquoi ? Parce que vous parliez de une évaluation de quelqu'un avec une note à donner. Nous, c'est en permanence. On est tout le temps évalué pour nos compétences. Et jusqu'à présent, et c'est mon métier, et j'ai même dirigé des entités de formation, la problématique, c'est que quand vous contrôlez un autre individu qui fait le même métier que vous, vous ne pouvez pas vous empêcher, quand vous contrôlez un individu, de vous prendre comme référentiel. C'est totalement naturel. On ne peut pas faire autrement. On est construit sur ce métier-là. Donc quand on voit un autre pilote exercer, on ne peut pas ne pas se prendre en référence. Et la problématique, c'est qu'on va tomber sur des îlots d'exigences. C'est-à-dire que chacun a des exigences qui lui sont propres, qui sont différentes. Et c'est très difficile de standardiser la façon dont on va évaluer un pilote. On a toujours eu du mal. Avec ce modèle-là, c'est réglé. Pourquoi c'est réglé ? Parce qu'on n'évalue plus un pilote, on évalue un équipage. Donc vous observez la performance d'un équipage dans une situation. Et le rôle du contrôleur, c'est d'arriver en débriefing en disant « Bon, les gars, voilà ce que moi j'ai vu. On a eu de la pluie, du vent, etc. Vous avez oublié d'afficher telle altitude. Voilà. On est allé jusqu'au bord du décrochage. D'accord ? Voilà ce qui a été observé. Et les pilotes l'ont vécu. C'est objectif. On est en train d'écrire une réalité. Et on voit bien que dans le modèle, on descend. Et plus on descend dans le modèle, et plus on se rapproche, plus on diminue les marges par rapport à la sécurité. D'accord ? Et le but du débriefing, c'est par rapport à cette performance qui est allée plus ou moins bas, de voir la participation de chaque acteur. Il y a deux pilotes. Donc est-ce qu'il y a eu des pratiques favorables ou plutôt des pratiques défavorables ? Et on descend à l'échelle des compétences individuelles. Mais le travail, c'est finalement un travail d'équipe. C'est-à-dire que le contrôleur, au lieu du débriefing, de dire comme avant, « Bon, toi, c'est pas bon, je t'arrête de vol parce que t'as fait ci, t'as fait ça », non, c'est « Ok, voilà moi ce que j'ai vu ». On devient un animateur de débriefing et chacun, au travers des erreurs qu'il a pu commettre, construit donc son apprentissage, positionne finalement sa performance par rapport à la performance de l'équipage. Et finalement, le débriefing, c'est plus le contrôleur qui le fait, c'est l'équipage. Et il n'y a rien de plus riche que quelqu'un qui reconnaît ses erreurs parce que derrière, on construit une stratégie de réparation. Et très souvent, les débriefings suffisent à réparer, parce qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, si les compétences qui ont été mises à mal sont trop importantes, on va faire du rentraînement, on va arrêter le vol, etc. C'est le même principe qu'avant. Mais ça change complètement la dimension managériale, et je pense que dans une autre industrie, on pourrait imaginer la même logique d'écrire une activité par rapport au risque associé, mais on pourrait même sortir du risque, on pourrait décrire une entreprise par rapport à sa performance. Ça pourrait marcher sur une entreprise avec une dimension commerciale. On décrit l'activité, c'est la réalité. Et le management qui a existé, qui consiste à avoir un entretien annuel avec une fixation d'objectifs, et puis on vérifie que les objectifs qui avaient été fixés l'année d'avant ont été vérifiés, etc., c'est complètement théorique. Parce qu'aujourd'hui, l'activité des entreprises, elle change toutes les deux semaines. D'accord ? L'activité stable, c'est fini. Les aléas sont permanents, etc. Donc vouloir imaginer tous les ans se fixer les objectifs pour une année et les vérifier un an après, c'est la théorie pure. Il n'y a plus de management, il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a pas de légitimité. Même le manager est mal à l'aise. Parce que souvent, il ne sait pas sur quelle matière il va manager. Alors que là, on est sur l'événement. Il y a du relief, on vient de le vivre. Donc on en profite et c'est là qu'on peut effectivement voir les erreurs qu'on a commises. Donc on a vraiment une dimension de formation qui est d'une richesse incroyable. Il y a une confiance qui se crée entre l'évaluateur et l'évalué, parce que l'évaluateur n'est pas un juge, mais quelqu'un qui accompagne pour grandir, pour se développer. C'est le management au sens noble du terme, c'est qu'on aide l'acteur à se développer au travers des écarts qu'on a pu constater. On le renforce sur ses points forts, on détecte les points faibles et on met ce qu'il faut pour que ces points faibles se renforcent. C'est vraiment une évolution extrêmement importante. Le deuxième élément, et je pense que ça aura vite fait la possibilité de l'indiquer avec tout ce qu'on appelle risques psychosociaux, etc., stress au travail, c'est que les acteurs qui fonctionnent avec ce modèle sont valorisés en permanence. C'est à chaque fois qu'il y a un événement, on met en exergue leurs pratiques favorables. Donc il y a vraiment une valorisation permanente au sein de leur activité, de leurs pratiques favorables, qui n'existe pas avec un modèle à l'ancienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne du sens à l'activité. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, puisque c'est le thème du jour, hein, le droit à l'erreur, l'erreur est au centre. L'erreur devient le moteur, alors que jusqu'à présent, c'était l'élément qu'on voulait découper en tranches pour le minimiser, le mettre sous le tapis, le ranger, le supprimer. Et nous, on sait que dans notre activité, cette fonction-là, elle a fait plus de dégâts qu'apporter des résultats concrets. On est arrivé au bout d'un système. C'est vraiment ça qu'on retient avec cette prise de conscience et cette mise à plat de notre modèle. Et on a mis en place ce modèle-là qui est très riche et je pense que ça va encore porter d'autres espoirs. Oui. Alors, en termes de moyens, on est passé, mais c'est facile pour nous parce que la pyramide est simple, on est passé par les instructeurs. C'est-à-dire qu'on a fait venir l'OSA collaboratif qui est là, qui est à l'origine de la construction du modèle, et on a fait une formation à tous nos instructeurs. Donc tous nos instructeurs ont été formés à ce modèle. On a complètement revu notre dictionnaire de compétences. Donc les compétences pilotes sont complètement calquées sur les compétences équipage qu'on voit là. Donc le modèle est totalement cohérent sur la traçabilité finale des compétences pilotes et sur ce que les instructeurs transmettent. Un instructeur, aujourd'hui, quand il fait une séance de simulateur, il rappelle ça. Il dit, voilà, on va dans le simulateur ensemble, et souvenez-vous, comme on est au simulateur et qu'on est en mode apprentissage, vous allez commettre des erreurs, et c'est super. Et ça n'existait pas avant. Tout le monde allait au simulateur, la peur au ventre, en disant, putain, il faut surtout que je ne fasse pas de conneries, sinon je vais être mal noté. Et là, on va au simulateur, on dit, on va faire des conneries comme dans la vraie vie. Et c'est super, parce qu'on va ressortir avec de la matière. Alors qu'une séance où le mec, il est parfait, ça ne sert à rien. Donc voilà comment on le met en place, c'est au travail des instructeurs et du modèle qui descend jusqu'au dictionnaire de compétences qui lui est tracé.
Je voulais vous dire que vous êtes vraiment très très fort à Air France parce que non seulement vous avez lu Descartes, vous avez lu Aristote, mais en plus vous avez lu Bachelard. Donc bravo. C'est pour ça que je vous ai demandé avec qui vous aviez travaillé tout cela, si vous aviez travaillé avec des philosophes. Parce que pour finir tous ces propos, je voudrais insister sur le caractère fécond de l'erreur. Oui, ça peut paraître étrange, mais en fait il y a vraiment une fécondité de l'erreur. Et cette fécondité, comme on le voit dans le modèle qui a été projeté, peut être vraiment bénéfique au travail. Cette fécondité de l'erreur, elle est particulièrement visible en sciences. Et c'est le philosophe Gaston Bachelard, qui est un philosophe des sciences, qui l'a conceptualisé, puisqu'il a expliqué que la science avançait par une série de ruptures qui sont nécessaires à l'émancipation de l'esprit, puisque pour faire de nouvelles découvertes, il est nécessaire de renier ce qui était les anciennes vérités. Avant que la Terre soit ronde, elle a été plate. Et donc, la notion d'erreur prend toute sa place dans la dynamique de la pensée. Elle devient même constitutive de l'esprit scientifique, dans la mesure où on apprend à la repérer et à la rectifier. Donc, il y a une positivité de l'erreur. Donc, Bachelard va même jusqu'à dire dans son essai sur la connaissance approchée que l'erreur est un des temps de la dialectique qu'il faut nécessairement traverser. Elle suscite des enquêtes plus précises. Elle est l'élément moteur de la connaissance. Elle est l'élément moteur de la connaissance. Donc là, on est bien loin de la conception de l'erreur comme mise en échec de nos facultés rationnelles. Au contraire, l'erreur, c'est l'élément moteur de la connaissance. Et donc, si on prend acte de la démarche scientifique, on s'aperçoit qu'il y a une fécondité de l'erreur, dans la mesure où, par l'erreur, quand elle est rectifiée, l'esprit ne s'enferme pas en lui-même. Il prend le risque de se tromper et d'éliminer les erreurs pour s'approcher progressivement de la vérité. En science, comment on arrive à commettre des erreurs par la méthode expérimentale? On soumet toutes nos idées à l'expérience. Et par l'expérience, on va voir qu'il y a une succession d'erreurs et on va réajuster nos idées en fonction de cette expérience et en fonction du coup de ces erreurs qui ont été dévoilées par l'expérience. Et dans ce sens, l'erreur est bénéfique et elle se distingue de l'illusion, par exemple, qui, elle, n'apporte rien. Une illusion qui peut être une illusion d'optique, une illusion, ça peut être aussi une bergère qui croit éperdument qu'un jour son prince viendra et qu'elle deviendra une princesse. Elle se fait des illusions. Et donc, ce qui distingue, du coup, l'erreur de l'illusion, c'est que c'est le concept du « oups ». Quand on fait une erreur, on se dit « oups, j'ai pris Paul pour Pierre alors que c'était Pierre ». Mais quand on est dans l'illusion, on ne se dit jamais « oups », on croit que le prince viendra. Donc, pour illustrer ce propos, je vous propose de lire encore un texte, parce qu'il est très beau, d'Alain, le philosophe Alain, dans « Les vigiles de l'esprit », d'un texte qui s'appelle « Lire ». Il écrit « Quiconque pense commence toujours par se tromper. » L'esprit juste se trompe d'abord tout autant qu'un autre. Son travail propre est de revenir, de ne point s'obstiner, de corriger selon l'objet la première esquisse. Mais il faut une première esquisse. Il faut un contour fermé. L'abstrait est défini par là. Toutes nos erreurs sont des jugements téméraires et toutes nos vérités, sans exception, sont des erreurs redressées. On comprend que le liseur ne regarde pas à une lettre et que, par un fort préjugé, il croit toujours l'avoir lue, même quand il n'a pu la lire. Et si elle manque, il n'a pu la lire. Descartes, on en revient à Descartes, Descartes disait bien que c'est notre amour de la vérité qui nous trompe principalement, par cette précipitation, par cet élan, par ce mépris des détails qui est la grandeur même. Cette vue est elle-même généreuse, elle va pardonner à l'erreur. Il est vrai qu'à considérer les choses humainement, toute erreur est belle. Selon mon opinion, un sot, S-O-T, un idiot, n'est point tant un homme qui se trompe qu'un homme qui répète des vérités sans s'être trompé d'abord comme on fait ceux qui les ont trouvées. C'est pourquoi nos prédécesseurs, et surtout les plus anciens, qui se sont trompés en beaucoup de choses, la terre était plate, sont pourtant de bons guides. Et c'est justement parce qu'on ne peut rester à ce qu'ils ont dit que ce qu'ils ont dit est bon. Voilà, je voulais juste revenir sur cette phrase. Il est vrai qu'à considérer les choses humainement, toute erreur est belle. Donc il n'y a que la philosophie et Air France pour dire ce genre de choses, pour dire une phrase si étonnante. Mais voilà, ça sera ma conclusion sur ce propos. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux façons de faire des erreurs. La première, c'est donc d'être contraint à l'erreur par manque des conditions extérieures favorables pour ne pas en faire, comme par exemple quand au travail on est contraint à la précipitation alors qu'on aurait besoin de temps pour penser plus droitement, devoir travailler trop vite, avoir 300 mails à envoyer par jour dans la précipitation. La seconde, plus positive, c'est aussi l'idée qu'on peut faire des erreurs parce qu'on a osé entreprendre quelque chose de nouveau, d'audacieux, donc dans le travail, une innovation. Et donc le droit à l'erreur au travail serait donc à deux niveaux. Premier niveau, accepter l'humain au travail et prendre en compte la possibilité de ses erreurs, et donc en mettant en place des conditions qui vont limiter ces erreurs, qui sont elles-mêmes inutiles. Une erreur qu'on n'a pas créée nous-mêmes est inutile. Deuxième niveau, pour l'entreprise peut-être, favoriser l'innovation au regard de la connaissance scientifique, la recherche du nouveau, et avec les erreurs que cela comporte et qui sont nécessaires à chaque recherche. Voilà. Alors ça, c'est
des erreurs qui se transforment en fautes graves. Généralement, c'est pas lié à la suractivité. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. La deuxième, c'est qu'on a quand même beaucoup appris de l'industrie de l'aviation, puisqu'on a aujourd'hui la checklist dans les blocs opératoires. Depuis à peu près 2 ans et demi, on ne pouvait que s'étonner que cette checklist n'ait pas été mise en place avant, puisque c'est ce qui donne le top départ de l'intervention, sachant que le chirurgien a bien tous ses éléments, que toutes les prothèses sont là, et ce n'est pas parce que vous avez 3 boîtes de prothèses que vous avez forcément les 3 tailles, parce qu'on peut vous apporter 2 tailles identiques, et si vous avez besoin effectivement de la taille manquante, eh ben vous avez un petit problème. Voilà, mais on a beaucoup appris, et effectivement, le schéma que vous avez présenté est repris aussi au niveau médical. Alors souvent par procédure, notamment par plaque d'identito-vigilance, c'est ce qu'on avait vu pour l'exemple du bloc opératoire, en disant la plaque d'identité n'a pas fonctionné au niveau administratif, au niveau des départs au bloc, à l'arrivée du bloc opératoire où la personne, on n'a pas demandé le nom, lorsqu'elle était endormie par le médecin anesthésiste, et enfin lors de la prise en charge par le chirurgien qui aurait dû demander le nom de la patiente. Donc, effectivement, on fonctionne aussi un peu en plaque.
Moi, j'ai une question. On avait parlé ensemble, mais je crois que c'était plus vous. Vous aviez parlé du... Il y a un type de comportement chez une personne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer objectivement, ou dont on voit qu'ils vont faire des erreurs ou qu'ils peuvent faire des erreurs. Est-ce que vous pourriez en dire plus ?
Typologie ?
Non, je sais, c'est vous qui avez dit ça. Si vous n'avez pas de réponse.
Non, je pense que quand on a partagé avec Dr. Varichon, on a effectivement, quand on fait des contrôles en ligne, le sentiment, assez tôt dans la préparation du vol, parce qu'avant de partir en vol, on est en général 1h45 avant à préparer un dossier de vol entre les pilotes, puis après on a un briefing commun avec le personnel navigant commercial. Et dans la préparation de ce dossier, la façon dont le commandant de bord gère la préparation du vol avec ses copilotes, on voit tout de suite la façon dont il fonctionne. Et si c'est quelqu'un qui va être très carré, ça va, on sait déjà si ça va bien se passer ou pas, quasiment. Parce qu'il y a des signaux faibles qu'on détecte effectivement, et des gens qui sont un peu fouillis, qui sont pas très méthodiques, qui sont pas très à l'écoute, qui on voit tout de suite, on se dit faut espérer qu'il n'y ait pas trop d'aléas, parce que on sent qu'il y a une forme de fragilité, ne serait-ce que dans la préparation du vol, dans la gestion des priorités, dans la façon d'appréhender l'ensemble des ressources, etc. Donc c'est vrai que assez tôt, on peut projeter les qualités entre guillemets, de les compétences de gestion de ces aléas au travers d'un simple moment du vol où il y a effectivement beaucoup d'éléments à prendre en compte, etc. Donc c'est vrai qu'on peut, projeter, mais je crois que c'est la même chose, c'est ce que vous disiez sur l'aspect médical. La différence que je vois avec le médical, parce que c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration les deux activités, c'est que, un, le chirurgien sur une opération, effectivement, n'est pas à bord de l'avion, c'est-à-dire que nous, si on commet une erreur, on en est aussi les victimes, hein, si jamais il y a un événement. Et puis, nous, on ne vole jamais avec les mêmes personnes. Alors que je crois que les équipes médicales sont souvent les mêmes. Donc, il n'y a pas de biais de routine avec la notion de travailler ensemble depuis longtemps. Je crois que c'est des erreurs. Hein, la typologie des erreurs, on les connaît, les erreurs de routine, les erreurs de représentation, etc. Et les erreurs de routine, chez nous, c'est quelque chose qui est le plus fréquent, en fait. Avoir le sentiment que tout va bien. Donc on est en hypovigilance, et cette baisse de vigilance fait que quand on sort de sa zone de confort, on n'a pas préparé la stratégie. Il y a un exemple que je peux vous raconter qui est peut-être plus proche de votre activité. C'est la conduite de la voiture qui avait été faite sur, vous savez, les régulateurs de vitesse. Et donc, ils avaient pris un panel de gens d'âges différents qui étaient habitués à conduire des voitures automatiques, pas automatiques, habitués aux régulateurs de vitesse ou pas. Ils les mettent dans un simulateur de conduite et on leur demande d'utiliser le régulateur de vitesse pour gérer leur trajectoire et la conduite. Et c'est dans un trafic relativement fluide sur autoroute. Donc, ils arrivent à accélérer, décélérer avec le régulateur de vitesse pour réguler ça. Et ils ont des casques qui permettent de mettre en place la routine cérébrale. Ils vérifient quand la nouvelle fonction est mise en mode routine. Et à ce moment-là, ils déclenchent un freinage d'urgence. Et vous savez ce que font 90% des gens ? Ils appuient fort sur le régulateur de vitesse. Voilà, vous êtes une femme dangereuse. Et non pas le frein. Parce que ils ont le cerveau s'est installé dans une nouvelle routine qui finalement gère la vitesse avec ce module-là, et il n'est pas préparé à sortir de cette zone de confort qui est effectivement très confortable. Et quand ça arrive, et ben le raccourci fait qu'on utilise la dernière routine mise en place et on appuie fort sur le régulateur de vitesse. Bien sûr, on ne sait pas freiner en urgence. Je trouve que cet exemple, il montre bien ce qu'on entend par erreur de routine. C'est-à-dire qu'on se laisse endormir, on baisse sa vigilance. Et l'avantage du modèle contextuel, c'est systématiquement, par exemple, sur un vol un peu, vous savez, délicat sur le poteau noir, donc entre l'Amérique du Sud et l'Europe, où on sait que c'est là qu'il y a eu l'accident du Rio, il y a une zone convective qui est souvent un petit peu turbulente, il faut éviter des nuages un peu dangereux, etc. Si le moment du repos du commandant de bord arrive à ce moment-là, ben on va faire un briefing contextuel. Donc le briefing contextuel, il se met en œuvre dès que le contexte, dès qu'il y a un enjeu au niveau contextuel. Donc avant mon repos, je leur dis, écoutez, ou bien je ne vais pas me reposer, parce que je vais être sur le pont si c'est vraiment délicat. Si ce n'est pas très délicat, je vais me reposer. Je leur fais un briefing. Je leur dis, voilà, la zone à risque, elle est là, et la stratégie associée, c'est celle-là. Et ils la mettent en œuvre. Donc ça permet de sortir de la routine, c'est-à-dire que je les oblige à avoir une vigilance sur cet aspect du vol.
Oui, alors, dans les urgences vraies, quand le chirurgien est seul, il n'a pas de copilote la nuit. Et c'est pour ça aussi que tous ces effets indésirables, quand on les a analysés, ont permis de retarder la prise en charge opératoire des urgences quand elles n'étaient pas des urgences vitales. C'est-à-dire qu'autrefois, un enfant avait une appendicite, on disait ben, on l'opère tout de suite dans l'heure. Et aujourd'hui, on l'opère quand il y a l'ensemble de l'équipe. Donc, on sait aussi évaluer les erreurs qu'on a faites et les conditions de prise en charge pour qu'en cas de difficulté, il y ait des interventions humaines qui puissent venir aider le chirurgien et d'autres confrères qui puissent venir aider le chirurgien.